Ben.
Dans cette édition, on revient sur l'interview de Temata et Le Gaïc hier sur notre antenne. On suit aussi cet avis du CESEC sur la loi cannabis et on regarde du côté du tribunal. Le journal, c'est avec Valdemar Delage. Bonjour Valdemar.
Bonjour Damien, bonjour à toutes et à tous.
On parle politique pour commencer.
Oui, tout à fait, avec Temata et Le Gaïc qui était l'invité de la rédaction hier. Le député a de nouveau défendu sa proposition de résolution qui devait être déposée la nuit dernière sur le bureau de l'Assemblée et qui vise, on vous en avait parlé, à obtenir la reconnaissance du peuple Maohi par la République. Mais le jeune élu a surtout parlé des différences de point de vue qui s'opposent au sein du Tavigny sur l'avenir institutionnel. Exemple, avec cette citoyenneté maori qui avait été défendue par Temata et Le Gaïc et que Moetei Brotherson tente aussi d'obtenir avec son gouvernement. Un vœu avait même été voté en Conseil des ministres précisant que la citoyenneté servirait à prioriser les Polynésiens sur le foncier ou l'emploi. Talahoy et la majorité Tavigny n'ont pas suivi et pour une raison simple, Oscar Temaru ne veut pas de cet aménagement du statut d'autonomie.
Le président Oscar Temaru, il a 40 ans d'expérience politique derrière lui, il a vécu les accords de Nouméa et de Matignon et nous explique qu'une citoyenneté, comme ça l'a été imposé à la Nouvelle-Calédonie et comme la France souhaite peut-être nous l'imposer, c'est nous embourber dans 40 ans d'autonomie supplémentaire.
Et des négociations sur l'indépendance, sinon rien, voilà la position du leader bleu ciel. Temata Le Gaïc ne remet pas frontalement en cause la stratégie, mais tente quand même de la faire évoluer, en expliquant que les travaux parlementaires à l'intérieur, donc des institutions françaises, sont quoi qu'il arrive nécessaires pour aboutir à un référendum sur l'autodétermination, ne serait-ce que pour déterminer à l'avance qui votera et ne votera pas dans une telle consultation. Et à entendre le député, Oscar Temaru pourrait accepter des évolutions institutionnelles au sein de la France, à condition qu'elle s'engage sur un processus de décolonisation.
Je suis du côté de la loi qui pourra protéger l'emploi, protéger le foncier et restreindre le corps électoral pour que ce soit seuls les Polynésiens qui décident de l'avenir institutionnel de ce pays. Maintenant, que ça s'appelle citoyenneté, que ça s'appelle droit spécifique au territoire de la Polynésie, que ça s'appelle comme on le souhaite, l'objectif c'est que cette loi, elle puisse avoir trois jambes. Et pas que deux, la protection du foncier, la protection de l'emploi et la restriction du corps électoral pour l'accession à la pleine souveraineté.
Voilà, la restriction électorale comme condition à une évolution statutaire. C'est la proposition de Temata Le Gaïc qui s'est montré étonnamment optimiste à notre micro sur la pénétration des idées indépendantistes à Paris. Il assure même que le ministre de l'Intérieur et des Outre-mer, Gérald Darmanin, n'y est pas frontalement opposé.
Il est très ouvert sur la question de l'indépendance. Évidemment, il est attaché à la Polynésie, mais pas à la Polynésie en tant que territoire français, à la Polynésie en tant que territoire stratégique pour la France dans l'Indo-Pacifique. Pour personne, même pour Paris, la question de l'indépendance, ce n'est pas une question, c'est une question de temps.
Voilà, une question de temps au Tavigny aussi. Entre la vieille garde qui veut un référendum dans les 5 ans et les autres qui accepteraient un processus sur 20 ans. Il faut tout de même noter qu'à Paris ou à l'ONU, la France n'a jamais évoqué ni l'une ni l'autre de ces options.
7h03, le CESEC s'est montré plutôt défavorable au texte sur le CBD.
Et il aura fallu pas moins de 6 séances de commission pour en arriver là. Le CESEC a rendu un avis très mitigé hier sur le projet de loi du gouvernement sur le cannabis sans propriété stupéfiante et les médicaments à base de cannabis élaborés ou faits noix ou importés. Alors on se souvient que le gouvernement Brotherson a fait abroger la loi adoptée sous l'ancienne mandature et avait promis de présenter son texte avant la fin de l'année. Eh bien c'est ce qui a été fait, mais peut-être un peu trop vite selon le CESEC, qui écrit donc que le projet de loi du pays ne permet pas de connaître les réelles intentions ou objectifs du pays en la matière. Les représentants de la société civile s'inquiètent donc de l'usage récréatif auquel Moetei Brotherson est favorable et ne veulent pas que l'autorisation du CBD soit une façon de banaliser l'usage du PACA. On écoute Marguerite Lai et les rapporteurs de l'avis du CESEC.
Ce qu'on nous demande, c'est de réfléchir, de donner notre avis sur l'utilisation du CBD, du cannabis, à un taux de THC de 0,3%. Comme ça se passe en Europe et tout ça, nous sommes favorables à ça. Par contre, là où nous sommes défavorables, mais on le voit dans le texte, que le cannabis, c'est pas tout le monde qui plante, que ça ne soit pas récréatif pour tout le monde, alors qu'on le sait bien, c'est déjà le cas. Mais il faut donner un certain cadre. On ne peut pas laisser faire n'importe quoi.
Et le CESEC reproche au gouvernement un manque de données chiffrées, un manque de données aussi sur les risques du CBD pour la santé. Il pointe également que les études qualitatives de l'Institut Mallardé, commencées en 2023, n'en sont qu'à mi-chemin et que le dispositif proposé est donc prématuré. Et comme toujours, le CESEC fustige l'absence d'arrêté d'application.
Au tribunal, peine alourdie pour Bill Ravel.
Oui, la cour d'appel se penchait hier sur le cas de l'homme d'affaires accusé de corruption active pour des versements en liquide au syndicaliste Cyril Le Gaillic afin de permettre le déchargement de son navire pétrolier et d'acheter la paix sociale. Dans cette affaire mise à jour en 2012, Bill Ravel avait été écopé de 2 ans de prison avec sursis pour corruption active en première instance. L'homme fort de la CSIP, lui, avait été reconnu coupable de corruption passive et d'abus de confiance envers sa centrale syndicale. Il avait été condamné à 3 ans de prison, dont 2 avec sursis, et chacun des deux protagonistes devait régler une amende de 11 millions de francs. Le troisième larron de cette affaire, Gaston Tétouanoui, par qui transitaient les sommes d'argent, avait lui été condamné à 1 an de prison avec sursis et une amende d'1 million. Les prévenus avaient donc fait appel de cette décision et l'affaire avait été rejugée en novembre 2023 et le délibéré a donc été rendu hier. Bill Ravel et Cyril Le Gaillic ont été condamnés à 3 ans de prison, dont 2 avec sursis, dont 1 an de prison ferme, donc 1 an de prison ferme chacun, ainsi qu'à une amende de 11 millions. Ils devront aussi à leurs frais publier cette condamnation dans le journal officiel. Gaston Tétouanoui a lui été condamné à 2 ans de prison avec sursis et 1 million d'amende, tandis que Carole Tohoffa, la comptable de Bill Ravel, a été dispensée de peine.
Et puis toujours du côté de la cour d'appel, Dominique Auroi était de nouveau sur le banc des accusés hier matin.
Oui, souvenez-vous, l'homme d'affaires avait été condamné en juin 2022 à 6 mois de prison avec sursis pour homicide involontaire d'une employée des rotatifs de la dépêche de Tahiti. Il était accompagné de Pierre Marchesini, l'ancien co-gérant qui avait écopé en première instance à 200 000 francs d'amende. Eh bien, le procureur a demandé un alourdissement de ses peines, 1 an de sursis pour l'ancien propriétaire de la dépêche et 2,4 millions de francs d'amende pour son associé, délibéré attendu le 18 avril.
Et on était à l'aéroport hier pour parler procédure de détaxe.
Oui, puisqu'un nouveau processus a été lancé à FAA. Les visiteurs n'auront plus qu'à passer leur bordereau dans un eurodateur côté terminal international et les glisser dans une boîte aux lettres. Il faut dire qu'ils sont 28 000 tous non-résidents à faire une telle demande tous les ans. Et jusqu'à présent, ils devaient se rendre au bureau des douanes qui se trouve dans le grand hall de l'aérogare de Tahiti FAA. Compliqué en cas de retard ou de file d'attente. Les détails de cette nouvelle procédure avec le ministre des Finances Tevaiti Pomare. Il a mis en place ce système avec l'aide des douanes.
L'idée, c'est de quelque chose qui soit pratique, simple et sécurisé. Donc avant, on avait un visa manuel en zone publique. Aujourd'hui, l'usager peut venir directement en zone d'embarquement pour déclarer l'ensemble des articles qu'il aurait achetés ici en détaxe et qui portent sur lui. Il n'a pas besoin de prévoir de temps en plus. Il arrive, il eurodate ici et puis il pose l'enveloppe dans cette boîte aux lettres.
Et du côté des douanes, on se félicite aussi de cette nouvelle mesure, on se félicite du gain de temps, puisque les bordereaux de détaxe qui sont remplis directement par les commerçants et remis à leurs clients leur sont renvoyés une fois postés et visés à l'aéroport afin qu'ils puissent justifier de ne pas avoir fait payer la TVA. Cela dégage aussi un emploi de douanier qui était jusque-là sur des tâches administratives, un emploi qui pourra être utilisé par exemple pour la partie contrôle, puisque les douanes peuvent toujours demander bien sûr aux usagers passant par l'eurodateur de justifier leur demande de détaxe en montrant les objets achetés et les reçus.
Et pour terminer, on vous parle d'un anniversaire.
Celui des 80 ans de la naissance de Henri Hirō. Pour célébrer l'homme de culture disparu il y a 34 ans, Tefare Tahiti Nui et le gouvernement organisent des célébrations tout au long de l'année. Cela vise à honorer son œuvre, sa pensée et la philosophie qu'il a instillée. Une source d'inspiration constante pour les générations actuelles, voilà ce que souligne la Maison de la Culture. Alors sa veuve Do Carlson et sa fille Hitihiti Hirō étaient nos invités hier matin pour nous parler de cette année de célébration. 4 opérations ont ainsi été planifié avec la conception d'une exposition sur sa vie, la réalisation d'un clip vidéo qui illustrera le dernier Himene écrit et composé par l'artiste, mais aussi la réalisation d'un documentaire et la mise en scène d'une pièce de théâtre. Un bel hommage pour l'artiste qui fait aujourd'hui consensus dans la société polynésienne, mais ça n'a pas toujours été le cas, bien sûr, comme le rappelle sa fille Hitihiti Hirō.
Des fois, j'ai l'impression que toute cette partie, voilà, toute la haine qu'il y avait autour de lui, bien finalement, on dirait que ça n'a jamais existé pour certains. On dirait que il a toujours été le sauveur de la culture, ce qui est fou. C'est aussi un de nos des messages qu'on doit aussi faire passer cette année, c'est que c'était pas tous les jours facile. C'était un réel combat, mais bon, que les gens maintenant, n'arrivent pas à percevoir.
Un combat que les gens ne perçoivent pas forcément aujourd'hui, car les temps ont bien sûr changé, c'est ce que souligne sa veuve Do Carlson. Elle estime toutefois que le discours d'Henri Hirō n'aurait pas bougé avec le temps.
Je pense qu'il dirait exactement la même chose. C'est-à-dire qu'il faut s'affirmer en tant que Polynésien, comme jeune d'aujourd'hui, en gardant ses valeurs principales, c'est-à-dire sa langue, les valeurs fondamentales de partage, de solidarité, de compassion, d'amour. Bon, c'est très difficile, enfin, je veux dire, ça reste peut-être du virtuel, parce que dans la vie courante d'aujourd'hui, ça n'est pas vraiment... Enfin, je pense pas que ce soit très facile de le faire. Mais bon, ça aurait été sa philosophie, je pense.
Des valeurs et une philosophie que les Polynésiens sont donc invités à découvrir ou à redécouvrir tout au long de l'année. Outre l'exposition, le clip, le documentaire et le théâtre, des hommages sont aussi prévus lors des événements majeurs du calendrier culturel. Toutes les infos sur notre site radio1.pf. C'est la fin de cette édition, merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. On se donne rendez-vous à 7h30 pour la revue de presse d'actualité locale.